Emmanuel Tchibaou est depuis hier le nouveau président de l'UC. Vous l'entendrez dans un instant. Son élection sera aussi au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Débrayage du personnel de l'école René Fong de Dombéa-sur-Mer, victime de dégradation ces dernières semaines. Le personnel reçoit le soutien des parents d'élèves et des institutions. 200 jours d'entrave à la circulation sur la RP1 à Saint-Louis. L'association Citoyen Mondorien invite aujourd'hui les automobilistes à klaxonner au verrou. En métropole, semaine décisive pour Michel Barnier. Il va consulter tous les responsables des groupes politiques sur le budget 2025 et tenter d'éviter les motions de censure. Et puis la France s'aligne sur Washington et Londres sur le conflit ukrainien. Paris autorise Kiev à utiliser ses missiles longue portée en territoire russe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
On reviendra sur tous les résultats du week-end. Concernant les derniers résultats du football avec la Ligue 1, c'est compliqué pour Nantes.
Oui, des supporters navrés qui voient encore les Nantais couler face au Havre et Comboiré qui promet de mettre les bouchées doubles alors que son club est redescendu à la 16e place, 9e match d'affilée sans victoire. Des débordements en tribune ont même provoqué l'arrêt de la rencontre quasiment 30 minutes avant le coup de sifflet final. Loin de l'euphorie des premières belles performances du début de saison, les Canaries redescendent sur terre et risquent d'y laisser des plumes pour se maintenir dans l'élite une fois de plus.
En Formule 1, ça y est, c'est fait. Verstappen, champion du monde 2024.
Il garde sa couronne au pays du King, à Las Vegas. Pourtant, le pilote Red Bull n'a pas été chercher ce quatrième sacre mondial dans de confortables souliers en daim bleu. Au contraire, la route a été dure dans cette deuxième partie de saison. Il a vu le reste du paddock mettre fin à sa suprématie et de nombreux pilotes prêts à prendre le trône. De quoi promettre une belle bataille pour 2025 alors qu'il reste encore deux courses au menu cette année.
On reviendra avec nos invités sur tous les résultats sportifs du week-end et nous parlerons avec nos invités de la voile en Calédonie.
Oui, championnat de kitesurf, windsurf, croiseur, J70, trophée des jeunes marins, régate No Woman No Sail. Le mois de la voile se poursuit jusqu'à la mi-décembre. Nous recevrons pour en parler Gilles Aîné, le président de la Ligue Calédonienne de Voile, mais aussi Mathieu Landrieux du Cercle Nautique Calédonien ou encore Olivier Rocher de l'ASPTT Nouméa Glisse. Ce sera à suivre donc juste après ce journal.
Avant de développer tous ces titres, je vous rappelle que le couvre-feu est prolongé au moins jusqu'au 2 décembre inclus. Les horaires ne changent pas. Il reste en vigueur de minuit à 5 heures du matin. En ce qui concerne les interdictions de rassemblement de personnes, de manifestations et de cortèges dans le Grand Nouméa, elles restent prolongées jusqu'au 20 décembre inclus. De même pour les restrictions liées à la vente d'alcool. Le 55e congrès de l'Union calédonienne qui était réuni depuis vendredi à la tribu de Mia à Canala a donc élu Emmanuel Tchibaou à la présidence. Il succède à Daniel Goa, qui ne se représentait pas. Le bureau est largement renouvelé et rajeuni, mais la CCAT y reste représentée, Elisabeth Noir.
Emmanuel Tchibaou a été élu alors que les autres candidats s'étaient désistés. Âgé de 48 ans, le fils de Jean-Marie Tchibaou, qui a été élu député de la seconde circonscription en juillet dernier, a recueilli 144 voix sur 198. Quant au bureau de l'UC, vous le disiez, il a été largement rajeuni et renouvelé. Le premier vice-président est Pierre Chanel Toutougoro, le chef du groupe UCFLNKS au Congrès. Il remplace à ce poste Gilbert Thuénon. Le deuxième vice-président est Michael Forest, membre du gouvernement, qui succède à Marilyn Sinewami, le maire de Marais. Le commissaire général reste Christian Théin, le leader de la CCAT, actuellement incarcéré en métropole. Et c'est Hervé Théataouva qui devient commissaire général adjoint en remplacement de David Wanabo. Dominique Fauchy conserve le poste de secrétaire général. Romualdo Pidgeot devient premier secrétaire général adjoint en remplacement de Pascal Sawa. Et c'est Amandine Darras, la suppléante du député Emmanuel Tchibaou, qui devient deuxième secrétaire général adjointe. L'élection du bureau s'est déroulée dans la soirée d'hier. À l'issue de ces travaux, la première réaction du nouveau président Emmanuel Tchibaou, il exprime la volonté de pouvoir avancer dans les discussions et de faire la lumière sur ce qui s'est passé le 13 mai.
Je prends la mesure du travail qui reste à accomplir. Je pense que la nouvelle équipe qui a été nommée ce soir, elle a témoigné déjà de par son engagement et puis de par l'émotion qu'ils ont été portés par l'ensemble des congressistes, la volonté de pouvoir avancer dans les discussions et autant que faire se peut, abonder dans le plan de relance, les deux plans de relance, que ce soit le PS2R ou le plan quinquennal. Aujourd'hui, c'est important de se retrousser les manches et puis de faire la lumière aussi sur tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai, parce que c'est éclairer aussi les débats qui vont arriver sur la sortie de l'accord de Nouméa afin de pouvoir se projeter pour un pays plus émancipé pour nous, les indépendantistes. Et puis, il reste encore à traduire par un cadre dans lequel les négociations doivent se tenir et puis après construire finalement avec ceux qui cheminent sur ce chemin d'une souveraineté émancipée, quelles négociations, quel cadre, quel contenu on met dans ce nouvel accord que tout le monde appelle de ses voeux à l'Union calédonienne.
Un nouvel accord que tout le monde appelle de ses voeux à l'Union calédonienne. Emmanuel Tchibaou affirme que l'UCE veut reprendre les discussions sur l'avenir, mais avant cela, elle attend le congrès du FLNKS.
Il y a un chantier qui va être engagé sur la partie qui a affiné sur la stratégie. On attend aussi la rencontre prochaine avec l'ensemble des partenaires indépendantistes et surtout la réunion du congrès du FLNKS à venir, je ne sais pas quand encore. Il n'y a pas d'équipe qui a été destinée, on est sur la lancée de ce qui avait été formulé par le FLNKS au dernier congrès de Kaimoulo à Lansbata avec l'équipe de négociation et puis après des éléments que les uns et les autres ont pu avancer dans les accords qui ont avorté. Il faut revenir à la table des discussions et puis après on a beaucoup d'attentes pour nous.
Emmanuel Tchibaou, qu'on l'aura remarqué, prend pour référence le congrès du FLNKS de Kaimoulo, c'est-à-dire qu'il fait l'impasse sur le congrès controversé de Pagou à Koumak, auquel le PALIKA et l'UPM n'avaient pas participé. Il est aussi revenu sur la composition de son bureau et de cette équipe rajeunie.
C'était une volonté qui a été déjà exprimée par les adhérents depuis quelques années, qui n'a pas été traduite dans la désignation des membres du bureau. Aujourd'hui, c'est chose faite. Charge à nous de donner corps aux motions et aux résolutions qui ont été travaillées et validées ce matin.
Les motions et résolutions du 55e congrès n'ont pas encore été rendues publiques. Elles devraient l'être dans les prochains jours. Mais Emmanuel Tchibaou en a résumé le sens et les orientations.
Ce qu'on va aller chercher, c'est un accord vers la pleine émancipation. Donc à partir de là, c'est un slogan, il faut construire. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur les travaux qui ont été déjà avancés par le FLNKS au dernier congrès de Kaimoulo, puisqu'il y a eu une restitution qui s'est faite en début d'année. C'est la trajectoire qui nous reste à construire et finalement, c'est le chemin qui nous reste à construire. Et puis on compte bien le mener. On a ce chantier-là qui est engagé sur la suite des discussions institutionnelles. Mais il y a aussi une réflexion qui est apportée dans le projet de société, parce qu'on ne peut plus faire l'économie du débat sur le 13 mai en se disant qu'on va répondre aux problématiques sociétales qui se sont traduites par ces mouvements de violence du 13 mai, avec juste abonder en trésorerie les caisses des collectivités. Il faut aussi remettre sur la table le projet de société qui avait été porté par le FLNKS durant les premières et deuxièmes campagnes référendaires et puis le nourrir aussi tout ce qui est le débat aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire, autant qu'intégrer les éléments du plan de relance.
Le nouveau président de l'UCE qui donne aussi des gages à la CCAT en évoquant le cas de ceux qu'il qualifie de prisonniers politiques.
On est sur la reprise des discussions, éclairer ce qui s'est passé le 13 mai, tant sur le volet judiciaire, éclairé par l'action de la justice, éclairé aussi pour la situation des prisonniers qui se sont engagés dans une lutte politique et puis qui se retrouvent dans une situation aujourd'hui où ils sont transférés sur la France. Et pour le coup, les avocats ont témoigné du non-respect des droits de la défense. L'instruction n'est pas terminée, donc on attend la suite. Mais on souhaite véritablement que si on doit passer un message, c'est de se dire qu'on est tous comptables de ce qui s'est passé. Et que si ça s'est passé, c'est qu'il y a eu à un moment donné un déséquilibre, un dysfonctionnement. Donc nous, on est aussi volontaires de porter ces éclairages-là, en prenant aussi en compte que la présomption d'innocence, c'est valable aussi pour les prisonniers politiques.
Des propos recueillis hier soir par Kelinda Bouakou à la tribu de Mia, à Canala.
Et cette élection d'Emmanuel Tchibaou à la tête du lycée, c'est évidemment, Elisabeth, le thème de votre chronique de la semaine écoulée.
Simple renouvellement, rupture ou changement dans la continuité ? Il est trop tôt pour savoir quelle interprétation donner à l'élection d'Emmanuel Tchibaou à la tête de l'Union calédonienne. Mais curieusement, le plus vieux parti de Nouvelle-Calédonie a un sens aigu de la communication. En nommant à sa tête le fils du leader kanak assassiné, l'UCE est assuré d'un certain retentissement médiatique, au point que l'on se demande si ce n'est pas l'un des objectifs recherchés. Parce que d'Emmanuel Tchibaou, on sait finalement peu de choses, malgré son élection en juillet dernier comme député de la seconde circonscription. Déjà à l'époque, sa candidature avait surpris, puisqu'il avait jusque-là consacré sa carrière à la culture plutôt qu'à la politique. Mais bon sang ne saurait mentir, très jeune, il a été immergé dans la vie politique en étant issu de deux familles et de deux clans, les Tchibaou et les Weta, qui ont toujours été très impliqués dans la vie publique calédonienne, même si c'était à l'origine dans des camps opposés. À ce titre, il a d'ailleurs surpris en siégeant à l'Assemblée nationale dans le groupe de la gauche démocrate et républicaine, qui est en réalité le groupe communiste, bien loin des engagements familiaux. Emmanuel Tchibaou met donc ses pas dans ceux de son père, qui avait présidé l'Union calédonienne de 1986 à 1989, mais on ne sait pas vraiment où il se situe dans l'effervescence que connaît le monde indépendantiste. Le FLNKS est profondément divisé, il est en voie de décomposition, voire d'explosion, et l'Union calédonienne, qui porte une lourde responsabilité dans le délitement du front indépendantiste, est elle-même traversée de courants contraires et gangrénée par l'existence de la CCAT. C'est dans ce contexte que Daniel Goa a rendu son manteau après 12 ans de présidence illustrée par des discours d'une extrême violence. Mais avant de quitter le devant de la scène, il avait poussé la candidature d'Emmanuel Tchibaou, originaire comme lui de la commune de Yengen. Alors quel ton Emmanuel Tchibaou va-t-il donner à sa présidence ? Va-t-il poursuivre le durcissement de son prédécesseur ? Va-t-il soutenir les durs ou les modérés ? Va-t-il tenter un improbable rapprochement des deux tendances ? Le nouveau bureau de l'UC est rajeuni et en apparence, il semble traduire une sorte de synthèse entre les radicaux et les autres, mais il faut rester prudent. On note le départ de Gilbert Thuénon, mais l'arrivée de Michael Forest et le maintien de Dominique Fauchy au secrétariat général. On relève aussi que le commissaire général de l'Union calédonienne reste un certain Christian Théin, preuve que l'UC Nouvelle Formule ne va pas désavouer la CCAT et sa violence destructrice, à moins, on peut toujours rêver, que ce soit une manière de la garder sous contrôle. La réponse à ces interrogations sur le positionnement de l'UC intéresse bien au-delà de la mouvance indépendantiste. Il en va d'abord de l'unité ou non du FLNKS, et on ne sait pas encore si l'UPM et le PELICA verront d'un bon œil l'élection d'Emmanuel Tchibaou, qui ces dernières années s'était rapproché de Paul Néaoutin. Vont-ils considérer son élection comme le gage d'une volonté d'apaisement, ou à l'inverse, comme un passage à l'ennemi ? Et quel signe cette nouvelle présidence envoie-t-elle dans la perspective des discussions sur l'avenir ? Emmanuel Tchibaou va-t-il influer la ligne de l'UC vers la recherche d'un accord global ? Et va-t-il favoriser des discussions avec les partisans de la France ? Bref, beaucoup d'interrogations et pour l'instant peu de réponses, parce que on l'a appris ces dernières années, l'UC a des raisons que la raison ne connaît pas.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez évidemment sur notre site internet ou alors vous la réécoutez cet après-midi, juste après notre flash à 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, c'est notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Selon vous, l'élection d'Emmanuel Tchibaou à la présidence de l'Union calédonienne est-elle un signe positif pour la recherche d'un accord global ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h43. Une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie, notamment ce débrayage ce matin du personnel du groupe scolaire René Fong de Dombéa-sur-Mer.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Pas de garderie ce matin au groupe scolaire René Fong de Dombéa-sur-Mer, mais un débrayage pour alerter la population. L'établissement est depuis plusieurs semaines, Michael Juneski, la cible d'exactions qui a poussé les responsables à réagir.
Touche pas à mon école, le message inscrit sur une pancarte réalisée par les petits du groupe scolaire, alors que l'établissement a connu une recrudescence des méfaits depuis 5 semaines. Écoutez Stéphane Courtine, il est le directeur de l'école élémentaire René Fong.
Premier incident donc sur le premier week-end des vacances scolaires d'octobre. Le local poubelle a été incendié et depuis cette date, tous les lundis matins, on découvre de nouvelles dégradations, donc des tags, des vitres cassées. Et la semaine dernière, 4 portes fracturées, ils sont entrés dans les salles, ont tagué sur les tableaux blancs interactifs. et encore la semaine dernière des vitres cassées. Donc voilà, c'est un ras-le-bol de l'équipe enseignante qui a besoin du concours des familles pour passer ce message dans le quartier et faire en sorte que l'école soit sanctuarisée.
Les enfants eux-mêmes étaient tristes de découvrir à plusieurs reprises leur lieu de vie scolaire saccagé par un ou plusieurs individus. Aujourd'hui, il n'y avait pas garderie donc, mais les parents d'élèves étaient invités à échanger avec les acteurs de l'éducation.
C'est bien parce que ça montre qu'il faut qu'on soit plus impliqué aussi dans ce qui se passe ici à l'école. Moi, mes enfants, ils ont commencé l'école déjà bien depuis l'ouverture de l'école. Ma fille, c'était sa classe qui a été dégradée. Sa classe, elle était très triste d'avoir justement sa porte bien dégradée.
Pour impliquer plus les parents, les voisins, etc., pour éviter ce genre de choses, quoi.
Ça fait dommage quoi, pour les petits, mais voilà. Quoi. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est avec tout le monde qu'on pourra trouver une solution.
L'équipe pédagogique elle-même subit cette situation. C'est son outil de travail qui est visé. Marie-Jo Barbier, présidente de la commission de l'enseignement à la province sud.
Ma présence ce matin, c'est déjà dans un premier temps soutenir nos enseignants parce qu'ils vivent des moments très compliqués. À chaque retour de vacances, à chaque retour de week-end, ils se demandent ce qu'ils vont découvrir dans l'école. Ça fait 5 week-ends que cette école est vandalisée. C'est juste insupportable.
Le maire de Dimbéa, Yoann Lecourieux, a aussi fait le déplacement pour partager avec les personnels du groupe scolaire et la population. À travers cette action, c'est avant tout les familles qu'il faut alerter sur le rôle qu'elles doivent jouer pour éviter que ces agissements ne surviennent dans le quartier. Pierre Mestre est adjoint au maire en charge des écoles.
Les premiers acteurs, c'est les parents et les familles. On peut faire toutes les actions qu'on veut. Si les parents et les familles sont défaillantes, les enfants seront défaillants derrière. Donc si le message véhiculé aux enfants n'est pas le bon, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. C'est important que par des actions comme ça, on rappelle à tout le monde que l'école est un lieu privilégié, un lieu où on apprend, un lieu où on s'épanouit, un lieu où on crée du lien social. Donc c'est important de montrer le soutien, de montrer qu'on lâche rien et que c'est comme ça qu'on reconstruira. La solution, elle vient des familles.
Au sein du groupe scolaire René Fongue, une quarantaine de personnels travaillent chaque semaine, tandis que les deux écoles accueillent plus de 400 enfants.
Au chapitre justice, l'affaire de meurtre en appel qui devait être jugée ce matin aux assises a été renvoyée, faute de jurés en nombre suffisant. L'accusé a été condamné l'an dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son ami d'enfance à la tribu de Newa à Wailou. Le 4 juillet 2021, il lui a tiré dans le dos pour un motif qui reste encore flou. L'affaire sera finalement jugée mercredi et jeudi. L'association Citoyen Mondorien a organisé une opération klaxon de la liberté ce matin. Ça s'est passé à Saint-Louis, avec pour objectif, Nicolas Legrand, de marquer les 200 jours d'entrave de la circulation sur la RP1.
Oui, 200 jours de blocage total de l'axe ou alors de circulation contrainte par des horaires d'ouverture, en ce moment de 6h à 18h. L'association Citoyen Mondorien vont donc se faire entendre des autorités et notamment de l'État afin de trouver des solutions pérennes pour les habitants du Mondor Sud. Et pour ça, elle invitait les automobilistes à klaxonner lors de leur passage devant les verrous des gendarmes. Gaël Beaufils de l'association Citoyen Mondorien.
Une opération klaxon de la liberté. En fait, le but, c'était de marquer le mécontentement des gens. On a une interdiction de rassemblement, donc on ne peut pas manifester ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était en fait de faire une opération pacifiste et de faire du bruit. Les gens qui travaillent de bonne heure ne peuvent pas passer par cette route. On est encore obligé de prendre le bateau pour ceux qui commencent avant 6 heures. Et les gens ont peur de traverser le soir, en fait, à partir de 16-17 heures. Ça commence à dégénérer. Donc voilà, en fait, on va chercher les gens à Nouméa, on les ramène. Pour ma part, je vais chercher ma femme à Nouméa et je la ramène tous les jours. Elle a peur d'emprunter la route, elle ne va pas le faire toute seule. Il faut des solutions très, très rapides, parce que ça fait maintenant 200 jours qu'on est bloqué. Je crois qu'on est le seul endroit au monde où ça s'est vu. Et voilà, il nous faut des solutions, en fait, de façon à ce qu'on puisse retrouver une vie normale. À Nouméa, on circule normalement. Ici, on circule toujours pas normalement. Les choses sont pas réglées à Saint-Louis.
Ce matin, dès 6h, les membres de l'association ont distribué des tracts au verrou sud. L'association Citoyen Mondorien qui invite ses sympathisants à klaxonner toute la journée lors de leur passage au verrou pour cette opération symbolique afin de marquer les 200 jours d'entrave de la RP1 à Saint-Louis. Au Mondor, Nicolas Legrand, RRB.
Et puis notez que les conseils de quartier du Mondor vont se réunir très prochainement, dès demain. En fait, ce sont les habitants du secteur de la Coulée-Mouirange qui vont se retrouver à l'école d'Arizir à 18h. Ensuite, les 7 autres quartiers de la ville se réuniront tout au long de la semaine, à la même heure. Le dernier conseil de quartier aura lieu lundi prochain à l'hôtel de ville avec les habitants de Boulary. Le trafic aérien international reprend normalement à partir d'aujourd'hui. 3 vols d'Air Calédonie International ont dû être reprogrammés ce week-end après une panne technique sur l'avion desservant la ligne Singapour-Nouméa vendredi soir. Les passagers du vol SB-707 ont été hébergés sur place dans l'attente d'une réparation. Ils ont finalement pu atterrir à Tontouta hier aux alentours de 15h. Les deux vols suivants ont été reprogrammés en conséquence. Les derniers passagers impactés doivent arriver en ce moment à la Tontouta. Et puis la Chambre des métiers de l'artisanat veut faire porter sa voix. Elisabeth Rivière a été réélue à la tête de la CMA la semaine dernière. Elle s'est fixée 9 axes de travail prioritaires pour les 5 prochaines années. Une feuille de route qui est évidemment en lien avec la reconstruction et l'aide aux artisans après les violences du mois de mai. Travail qui se fera aussi en portant les priorités de la Chambre consulaire devant les responsables politiques, selon Elisabeth Rivière.
Toutes ces choses-là, nous, on y réfléchit depuis longtemps. Ben, on va essayer de les porter encore plus haut et plus fort. Et l'État entend bien les choses. Les membres du gouvernement aussi avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, avec NCECO, parce que nous ne travaillons pas tout seuls, eh bien, entendent cette voix et je pense qu'elle peut répondre à l'ensemble de notre population.
Ça va être un travail de lobbying au cours de ces 5 prochaines années ou peut-être au moins dans les prochains mois?
Alors vous savez, quand je suis arrivée à la Chambre, ce lobbying n'était pas du tout fait. La Chambre était un peu en retrait. On lui demandait vraiment quand on avait besoin. Aujourd'hui, pour nous et depuis 2022, c'est important de faire du lobbying. Alors vous savez, on me reproche souvent de faire de la politique. Ça, c'est pas de la politique. Le lobbying, il faut travailler avec l'ensemble des groupes politiques parce que c'est eux les décideurs pour la Nouvelle-Calédonie. C'est eux qui portent les textes que nous pouvons leur proposer.
Elisabeth Rivière veut également continuer à mutualiser les moyens des chambres consulaires, notamment dans l'objectif de reconstruire le CFA. Elle était notre invitée ce matin. Une interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. 11h52, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde avant de retrouver notre Mac des sports du lundi.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébig, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
Michel Barnier joue-t-il sa survie à Matignon? Beaucoup le pensent, alors que le Premier ministre va recevoir d'ici la fin de la semaine les chefs de groupe parlementaires pour tenter de trouver un accord sur l'adoption du budget 2025. Depuis quelques jours, le Rassemblement national ne fait plus mystère de son intention de tenter de renverser le gouvernement et menace d'utiliser pour cela une motion de censure. La menace est-elle prise au sérieux à l'Élysée? Et le cas échéant, existe-t-il une solution pour remplacer Michel Barnier? Jacques Serret pour Europe 1.
Officiellement, aucune. Comme si le spectre de la censure était un sujet tabou, personne à l'Élysée n'ose se projeter dans un tel cas de figure. Nous n'en sommes pas du tout là, balayé d'un revers de main un conseiller du palais. Pourtant, en coulisses, l'hypothèse donne bien du grain à moudre au président et ses plus proches sont mis à contribution. Ainsi, deux solutions semblent se dessiner pour le chef de l'État. La première, passer outre la censure et renommer dans la foulée Michel Barnier. Le souhait d'Emmanuel Macron, c'est la stabilité, défend son entourage. Reste que certains sont dubitatifs. Michel Barnier a trop d'honneur, jamais il n'acceptera ça, analyse un membre du gouvernement. C'est pourquoi une petite musique commence à monter en Macronie. Le recours à François Bayrou. Oui, c'est une carte qui existe vraiment, confirme à Europe 1 un ministre de poids. Le patron du Modem ne serait pas contre. Un visiteur du soir du palais n'y va pas par quatre chemins. Cette fois, il est convaincu que Matignon, c'est pour lui.
Jacques Serret pour Europe 1. Qu'il soit terroriste ou séparatiste, l'islamisme est toujours antisémite. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui participait à la convention du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. L'occasion aussi pour lui d'étrier l'initiative de la France insoumise, qui souhaite l'abrogation du texte sur le délit d'apologie du terrorisme.
Alors que nos compatriotes juifs représentent moins de 1% de la population française, eh bien ils sont l'objet de 50% des agressions racistes et antireligieuses. Oui, honte à ceux qui pactisent quand ils battent le pavé avec les islamistes, quand ils refusent de qualifier le Hamas et le Hezbollah de terroristes. Et honte, mesdames et messieurs, chers amis, honte à ceux qui font honte à la France et qui désormais dépassent toutes les bornes puisqu'ils viennent de déposer à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie de terrorisme.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, lors de la convention du CRIF. Les agriculteurs entendent maintenir la pression sur le terrain. Certes, la France fait tout pour ne pas signer en l'état l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur, mais ce n'est pas suffisant, estiment les agriculteurs, et notamment ceux de la coordination rurale dans le Doubs, qui entendent manifester devant le Parlement de Strasbourg et qui veulent aussi bloquer de nouveau le pont de l'Europe. Le gouvernement a un double discours, estime en effet Nicolas Bonguet, le président de la coordination rurale du Doubs.
Ils sont tout ouverts sur les médias à dire qu'on est contre le Mercosur. Et puis quand il s'agit d'aller manifester à l'Europe, eh ben, ils ne nous accordent pas l'autorisation de manif. Alors qu'on est censé être soutenu pour aller contre le Mercosur.
D'autre part, le mouvement des agriculteurs est traversé aussi par des tensions internes. La FNSEA ne va pas se joindre aux actions de la coordination rurale, ce que regrette Nicolas Bonguet.
Qui veulent pas se mélanger, oui, c'est politique. Ce qu'ils veulent, c'est garder leur place. Le Mercosur, je pense que tous les syndicats sont d'accord là-dessus, c'est un non-sens complet pour l'agriculture. Ça, c'est quand même dommage qu'ils refusent de jouer avec nous pour faire quelque chose de plus grande ampleur et d'être entendu.
Et en toile de fond de ces tensions, il y a bien sûr les élections au sein des chambres d'agriculture prévues en janvier 2025 et qui détermineront la représentativité des organisations syndicales agricoles. L'actualité à l'étranger est dominée par le conflit russo-ukrainien et la France s'engage un peu plus dans cette guerre. Elle s'aligne en fait sur les décisions prises il y a quelques jours par les Américains et les Britanniques. Geoffrey Branger pour Europe 1.
Tout d'abord, la France, par l'intermédiaire de Jean-Noël Barrot, vient de donner son feu vert pour que l'Ukraine utilise des missiles longue portée français contre la Russie. Il était invité de France 3 à la mi-journée.
L'Ukraine doit pouvoir neutraliser des cibles militaires en Russie lorsque ces cibles permettent à la Russie d'agresser les Ukrainiens. C'est un principe de légitime défense et il est reconnu par le droit international, même avec des missiles s'il le faut.
Ensuite, le chef de la diplomatie française a annoncé le retour en Ukraine de soldats formés dans l'Hexagone, une coopération militaire inédite depuis la Première Guerre mondiale.
2300 soldats ukrainiens ont été formés et équipés dans notre pays. Ces soldats vont rentrer en Ukraine dans quelques jours pour regagner le front armé par des équipements français.
Notamment des blindés, des canons César, des postes de tir pour missiles anti-chars ou encore des drones. Ces soldats au front auront pour mission d'armer un poste de commandement et 3 bataillons d'infanterie. La France va également livrer au cours du premier trimestre de 2025 au moins 3 avions de chasse Mirage transformés, équipés pour le combat air-sol. Enfin, ce week-end, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la possibilité d'envoyer des troupes terrestres françaises sur le sol ukrainien.
Il est 11h58.